Livre quatrième, chapitre premier, légende fantastique du petit homme bleu. Libre à vous de ne pas y croire, moi je crois fermement au petit homme bleu. Non pas que je l'ai jamais vu, mais un poète de mes amis, en qui j'ai toute confiance, m'a raconté bien souvent s'être retrouvé face à face une nuit avec cet étrange petit gnome, et voici dans quelles circonstances. Mon ami avait eu la faiblesse de faire un billet à son tailleur, et comme tous les gens d'imagination en pareil cas, sitôt sa signature donnée, il s'était cru débarrassé de sa dette et l'idée de son billet lui était sortie de l'esprit. Or, il advint qu'une nuit, notre poète fut réveillé en sursaut par un bruit singulier venu de sa cheminée. Il crut d'abord que c'était un moineau frileux cherchant la vapeur tiède du feu éteint ou bien une girouette taquinée par le vent qui changeait. Mais au bout d'un moment, le bruit s'étant accentué, il distingua très bien le tintement d'un sac d'écu mêlé à je ne sais quel grincement de chaînette. En même temps, il entendait une petite voix aiguë comme le sifflet lointain d'une locomotive, clair comme un chant de coq, lui criait du haut du toit « L'échéance ! L'échéance ! » « Ah, bon Dieu, mon billet !» se dit le pauvre garçon, se souvenant tout à coup que les fêtes de son tailleur arrivaient dans 8 jours. Et jusqu'au matin, il ne fit que se remuer, cherchant le sommeil dans tous les coins de son lit, et n'y trouvant que la pensée de ce maudit billet à ordre. Le lendemain, le surlendemain, toutes ces nuits suivantes, il fut éveillé à la même heure et de la même façon. Toujours le bruit d'écu, le grincement de chaînette et la petite voix qui criait en ricanant « L'échéance ! L'échéance !» Le terrible, c'est que plus le jour de l'échéance approchait, plus le cri devenait aigu et féroce, plein de menaces de saisie et d'assignation. Infortuné poète, ce n'était pas assez des fatigues de la journée, des courses à travers la ville pour se procurer de l'argent. Il fallait encore que cette cruelle petite voix vînt lui enlever le sommeil et le repos. Mais à qui appartenait-elle donc cette voix fantastique? Quel esprit de malice pouvait s'amuser à le martyriser ainsi? Il voulut en avoir le cœur net. Une nuit donc, au lieu de se coucher, il éteignit sa lumière, ouvrit sa fenêtre et attendit. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en sa qualité de poète lyrique, mon ami habitait très haut, au niveau des toits. Pendant des heures, il ne vit rien que cette pittoresque étendue de toits serrés, inclinés l'un vers l'autre, que les rues traversaient en tous sens comme d'immenses précipices, et que les cheminées, les pignons déchiquetés par un rayon de lune accidentaient capricieusement. Au-dessus de Paris endormi et noir, cela faisait comme une seconde ville, une ville aérienne, suspendue et flottante entre le vide de l'ombre et la lumière éblouissante de la lune. Mon ami attendit longtemps. Enfin, vers les 2 ou 3 heures du matin, comme toutes les clochers dressées dans la nuit se passaient l'heure l'un à l'autre, un pas léger courut près de lui sur les tuiles et les ardoises, et une petite voix grêle souffla dans le tuyau de sa cheminée « L'échéance ! L'échéance !» Alors, en se penchant un peu, mon poète aperçut l'infâme petit lutin tourmenteur d'hommes qui l'empêchait de dormir depuis 8 jours. Il n'a pu me dire positivement sa taille. La lune vous joue de ces tours-là par la dimension fantastique qu'elle donne aux objets et à leurs ombres. Il remarqua seulement que ce singulier diablotin était vêtu comme les garçons de la banque, habit bleu à boutons d'argent, chapeau à claques, galon de sergent sur la manche, et qu'il tenait sous le bras une serviette de cuir presque aussi grosse que lui, dont la clé suspendue à une longue chaînette sonnait frénétiquement à chaque pas, comme la sacoche d'écus qu'il brandissait de son autre main. C'est ainsi que mon ami entrevit le petit homme bleu, pendant qu'il passait rapidement dans un rayon de lune, car il semblait très pressé, très affairé, enjambait les rues d'un bond, courait d'une cheminée à l'autre, en glissant sur la crête des toits. Son public est si nombreux à ce damné petit homme. Il y a tant de commerçants à Paris, tant de gens qui ont une fin de mois, tant de malheureux qui ont signé un billet ou mis le mot « accepté » en travers d'une lettre de change. À tout ce monde-là, l'homme bleu jetait en passant son cri d'alarme. Il le jetait au-dessus des fabriques à 7 heures éteintes et muettes, au-dessus des grands hôtels de la finance, endormis dans le silence luxueux de leur jardin, au-dessus de ces maisons à 5-6 étages, de ces toits inégaux disparates, amoncelés au fond des quartiers pauvres. L'échéance, l'échéance! D'un bout à l'autre de la ville, dans cette atmosphère de cristal que font sur les hauteurs le grand froid et la lune claire, la petite voix stridente sonnait impitoyablement. Partout sur son passage, elle chassait le sommeil, réveillait l'inquiétude, fatiguait la pensée, les yeux, et du haut en bas des maisons parisiennes, faisait courir comme un vague frisson de malaise et d'insomnie. Pensez ce que vous voudrez de cette légende. Voici dans tous les cas ce que je puis vous assurer pour appuyer le récit de mon poète. C'est qu'une nuit, vers la fin de janvier, le vieux caissier Sigismond de la maison Fromont jeune et Risse-Véréné fut réveillé en sursaut dans son petit logis de Montrouge par la même voix taquine, le même grincement de chaînette suivi de ce cri fatal. L'échéance! Ben, « c'est pourtant vrai, » pensa le brave homme en se dressant tout droit sur son lit. « C'est après-demain la fin du mois. Oui, j'ai le courage de dormir. » Il s'agissait en effet d'une somme importante. 100 000 francs à payer en 2 traites, et dans un moment où, pour la première fois depuis 30 ans, la caisse de la maison Fromont se trouvait absolument désargentée. Comment allait-on faire? Plusieurs fois, Sigismond avait essayé d'en parler à Fromont jeune, mais celui-ci semblait fuir la lourde responsabilité des affaires, traverser les bureaux, toujours pressé, enfiévré, sans rien voir ni entendre autour de lui. Aux questions inquiètes du caissier, il répondait, tout en mordant sa fine moustache, « c'est bon, mon vieux Planus, vous inquiétez pas, j'aviserai. » Et il avait bien l'air, en disant cela, de penser à autre chose, d'être à 1000 lieues de ce qui se passait. Le bruit courait dans la fabrique, où sa liaison avec Madame Risler n'était plus un secret pour personne, que Sidonie le trompait, le rendait très malheureux. Et effectivement, les folies de sa maîtresse le préoccupaient bien plus que les inquiétudes de son caissier. Quant à Risler, on ne le voyait jamais. Il passait sa vie enfermé dans les combles à surveiller la mystérieuse et interminable fabrication de ses machines. Cette indifférence des patrons pour les affaires de la fabrique, ce manque absolu de surveillance avait amené peu à peu la désorganisation de tout. Ouvriers et employés en prenaient à leur aise, venaient tard à leurs occupations, s'esquivaient le bonheur, sans souci de la vieille cloche qui, après avoir si longtemps mené le travail, semblait maintenant sonner l'alarme et la déroute. On faisait encore des affaires parce qu'une maison lancée marche seule pendant des années par la force de la première impulsion, mais quel gâchis, quel désarroi sous cette prospérité apparente. Sigismond le savait mieux que personne, et voilà pourquoi le cri du petit homme bleu l'avait si brusquement tiré de son sommeil. comme pour y voir plus clair dans cette multitude d'idées douloureuses qui se pressaient, s'agitaient, tourbillonnaient devant lui, le caissier avait allumé sa bougie et, assis sur son lit, il songeait. Et où trouver ces 100 000 francs? Certainement, il était dû plus que ça à la maison. Il y avait de vieilles notes qui traînaient chez les clients, un reliquat de compte avec les Prochassons et d'autres. Mais quelle humiliation ce serait pour lui d'aller ramasser toutes ces anciennes factures. Ces choses-là ne se font pas dans le haut commerce. On a l'air d'une maison de pacotille. Et pourtant, cela va être encore mieux qu'un protêt. Oh, l'idée que le garçon de banque arriverait devant son grillage, la mine assurée et confiante, qu'il poserait ses billets tranquillement sur la tablette et que lui, Planus, si justement, serait obligé de dire « Rapportez vos traites, j'ai pas d'argent pour faire face. » Non, 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 ce n'était pas possible. Toutes les humiliations étaient préférables à celle-là. Ben alors, c'est dit. J'irai en tournée demain, soupirait le pauvre caissier. Et pendant qu'il s'agitait, qu'il se tourmentait ainsi sans pouvoir fermer l'œil jusqu'au matin, l'homme bleu, continuant sa ronde, s'en allait secouer son sac d'écus et sa chaînette au-dessus d'une mansarde du boulevard Beaumarchais, où depuis la mort de Désiré, l'illustre de Lobel était venu habiter avec sa femme. L'échéance, l'échéance! Hélas, la petite boiteuse ne s'était pas trompée dans ses prédictions. Elle partit, la maman de Lobel n'avait pas pu continuer longtemps, les oiseaux et mouches bourmodes. Ses yeux étaient perdus de larmes, et ses vieilles mains tremblaient trop pour planter d'aplomb les colibris, qui, malgré tous ses efforts, gardait une physionomie piteuse et dolente. Il avait fallu y renoncer. Alors, la courageuse femme s'était mise à travailler à la couture. Elle reprisait des dentelles, des broderies, descendait peu à peu au niveau d'une ouvrière. Mais son gain, de plus en plus minime, suffisait à peine aux premières nécessités du ménage, et de Lobel, que sa terrible profession de comédien in partibus l'obligeait à de continuelles dépenses, en était réduit à faire des dettes. Il devait à son tailleur, à son bottier, à son chemisier, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était ces fameux déjeuners qu'il avait pris au boulevard du temps de la direction. La note se montait à 250 francs, payable fin janvier, et cette fois, sans aucun espoir de renouvellement, aussi le cri du petit homme bleu fit-il passer un frisson de terreur par tous ses membres. Plus qu'un jour avant l'échéance, plus qu'un jour pour trouver ses 250 francs. S'il ne les trouvait pas, tout serait vendu chez eux. Vendu ses pauvres meubles, toujours les mêmes depuis le commencement du ménage, insuffisants, incommodes, mais chers par les souvenirs qui se rattachaient à leurs éraillures, à l'usure d'un certain coin. Vendue la longue table des oiseaux et mouches pour mode, sur le bord de laquelle il avait soupé pendant 20 ans. Vendu le grand fauteuil de Zizi, qu'on ne pouvait pas regarder sans larmes, et qui semblait avoir gardé quelque chose de la chérie, de ses gestes, de son attitude, l'affaissement de ses longues journées de rêverie et de travail. La maman de Lobel en mourrait sûrement de voir tous ses chers souvenirs disparaître. En pensant à cela, le malheureux cabotin, que son égoïsme épais ne garantissait pourtant pas toujours des piqûres du remords, se tournait, se retournait dans son lit, poussait de gros soupirs. Et tout le temps, il avait devant les yeux la petite figure pâle de Désiré, avec ce regard suppliant et tendre qu'elle tournait anxieusement vers lui au moment de mourir, quand elle lui demandait tout bas de renoncer, de renoncer. Mais à quoi voulait-elle donc que son père renonçât? Elle était morte sans pouvoir le lui dire. Mais Delobel avait tout de même un peu compris. Et depuis lors, dans cette nature impitoyable, un trouble, un doute était entré qui se mêlait cruellement cette nuit-là à ses inquiétudes d'argent. L'échéance, l'échéance! Cette fois, c'était dans la cheminée de Monsieur Cheb que le petit homme bleu jetait en passant son cri sinistre. Il faut vous dire que Monsieur Cheb, depuis quelque temps, s'était lancé dans des entreprises considérables, un commerce debout très vague, excessivement vague, qui lui dévorait beaucoup d'argent. À plusieurs reprises déjà, Risler et Sidonie avaient été obligés de payer les dettes de leur père, à la condition expresse qu'ils se tiendraient tranquilles, qu'ils ne feraient plus d'affaires. Mais ces plongeons perpétuels étaient nécessaires à son existence. Il s'y retrempait chaque fois d'un courage nouveau, d'une activité plus ardente. Quand il n'avait pas d'argent, M. Cheb donnait sa signature. Il en faisait même un abus déplorable de sa signature, comptant toujours sur les bénéfices de l'entreprise pour satisfaire à ses engagements. Le diantre, c'est que les bénéfices ne se montraient jamais, tandis que les billets souscrits, après avoir circulé des mois entiers d'un bout de Paris à l'autre, revenaient au logis avec une ponctualité désespérante, tout noir des hiéroglyphes ramassés pendant le chemin. Justement, son échéance de janvier était très lourde, et en entendant passer le petit homme bleu, il s'était rappelé tout à coup qu'il n'avait pas un sou pour payer. Oh rage! Il allait falloir encore s'humilier devant ce Risler, courir le risque d'être refusé, avouer qu'il avait manqué à sa parole. L'angoisse du pauvre diable s'augmentait du silence de la nuit où l'œil est inoccupé, où la pensée n'a rien pour se distraire, et de la position horizontale qui, en donnant l'immobilité, complète à tout le corps, livre l'esprit sans défense à ses terreurs et à ses préoccupations. À chaque instant, M. Cheb rallumait sa lampe, ramassait son journal, s'efforçait vainement à lire, au grand déplaisir de la bonne madame Cheb qui geignait doucement et se retournait du côté du mur pour ne pas voir la lumière. Et pendant ce temps-là, l'infernal petit homme bleu, enchanté de sa malice, s'en allait en ricanant faire tinter un peu plus loin son sac d'écu et sa chaînette. Le voilà rue des Vieilles Audriettes, au-dessus d'une grande fabrique, où toutes les fenêtres sont éteintes, hormis une seule au premier, au fond du jardin. Malgré leur avancée, Georges Froment n'était pas encore couché. Assis au coin du feu, la tête entre les mains, dans cette concentration aveugle et muette des malheurs irréparables, il pensait à Sidonie, à cette horrible Sidonie qui dormait en ce moment à l'étage au-dessus. Elle le rendait fou positivement. Elle le trompait, il en était sûr. Elle le trompait avec le ténor toulousain, ce Casabon di Casaboni que Madame Thompson avait introduit dans la maison. Depuis longtemps, il la suppliait de ne plus recevoir cet homme. Mais Sidonie ne l'écoutait pas. Et dans la journée encore, à propos d'un grand bal qu'elle allait donner, elle avait déclaré tout net que rien ne l'empêcherait d'inviter son ténor. « Mais c'est votre amant !» lui avait crié Georges avec colère, les yeux fixés dans les siens. Elle n'avait pas dit non, elle n'avait pas même détourné son regard. Seulement, toujours très froide, avec son mauvais petit sourire, elle lui avait signifié qu'elle ne reconnaissait à personne le droit de juger ou de gêner ses actions, qu'elle était libre, qu'elle entendait bien rester libre et n'être pas plus tyrannisée par lui que par Risler. Ils avaient passé une heure ainsi en voiture, les stores baissés, à se disputer, à s'injurier, presque à se battre. Et dire qu'à cette femme, il avait tout sacrifié, sa fortune, son honneur, jusqu'à cette charmante Claire, endormie avec l'enfant dans la chambre à côté. Tout un bonheur à portée de sa main, qu'il avait dédaigné pour cette gueuse. Maintenant, elle venait lui avouer qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle en aimait un autre. Et lui, le lâche, il en voulait encore, mais qu'est-ce qu'elle lui avait donc fait boire? Soulevé par l'indignation qui bouillonnait dans tout son être, Georges Fromont s'était arraché de son fauteuil, marchait fébrilement par la chambre, et son pas résonnait dans le silence de la maison muette comme une vivante insomnie. L'autre dormait là-haut. Elle dormait avec le privilège de sa nature inconsciente et sans remords. Peut-être aussi pensait-elle à son Calzaboni. Quand cette idée lui traversait l'esprit, Georges avait des tentations folles de monter, de réveiller Risler, de tout lui dire et de se perdre avec elle. Il était aussi trop bête, ce mari trompé. Mais comment n'en surveillait-il pas davantage? Elle était assez jolie, surtout assez vicieuse, pour qu'on prît des précautions. Et c'est pendant qu'il se débattait au milieu de ses préoccupations cruelles et stériles, que le cri d'alarme du petit bonhomme bleu retentit tout à coup dans le bruit du vent. « L'échéance, l'échéance !» Le malheureux. Dans sa colère, il n'y avait plus songé. Et pourtant, il la voyait venir depuis longtemps, cette terrible fin de janvier. Que de fois, entre deux rendez-vous, alors que sa pensée libre, une minute de Sidonie, revenait aux affaires, à la réalité de la vie, que de fois, il s'était dit « Bon, ce jour-là, c'est la débâcle. » Mais, comme tous ceux qui vivent dans le délire de l'ivresse, sa lâcheté lui faisait croire qu'il était trop tard pour rien réparer, et il repartait plus vite et plus fort dans sa route mauvaise pour oublier, pour s'étourdir. À 7 heures, il n'y avait plus moyen de s'étourdir. Il voyait son désastre clairement jusqu'au fond. Et la figure sèche et sérieuse de Sigismond Planus se dressait devant lui avec ses traits taillés à coups de couteau, dont nulle expression ne corrigeait la roideur, et ses yeux clairs de Suisse allemand, qui depuis quelque temps le poursuivaient d'un si impassible regard. Eh bien, non, non, il les avait pas, ces 100 000 francs. Et il ne savait où les prendre. Depuis 6 mois, pour subvenir aux fantaisies ruineuses de sa maîtresse, il avait beaucoup joué, perdu des sommes énormes. Par là-dessus, la faillite d'un banquier, un inventaire pitoyable. Il ne lui restait plus rien que la fabrique. Et dans quel état? Mais où aller à présent et que faire? Ce qui quelques heures auparavant lui semblait un chaos, un tourbillon où il ne voyait rien distinctement et dont la confusion lui était encore un espoir, lui apparaissait en ce moment d'une netteté épouvantable. Des caisses vides, des portes fermées, des protêts, la ruine. Voilà ce qu'il apercevait de quelque côté qu'il se tourna. Et comme à tout cela se joignait la trahison de Sidonie, le malheureux, éperdu, ne sachant à quoi s'accrocher dans ce grand naufrage, eut tout à coup un cri d'angoisse, un sanglot, comme un appel à quelque providence. « Georges, Georges, c'est moi, mais qu'est-ce que tu as ?» Sa femme était devant lui. Sa femme, qui maintenant attendait chaque nuit, guettait anxieusement son retour du cercle, car elle continuait à croire que c'était là qu'il passait ses soirées. À voir son mari changer, s'assombrir un peu plus de jour en jour, Claire s'imaginait qu'il devait avoir quelques gros ennuis d'argent, sans doute des pertes de jeu. On l'avait prévenu qu'il jouait beaucoup. Et malgré l'indifférence qui lui marquait, elle s'inquiétait pour lui, aurait voulu qu'il la prît pour confidente, qui lui donna l'occasion de se montrer généreuse et tendre. Cette nuit-là, elle l'avait entendu marcher très tard dans sa chambre. Comme sa petite fille toussait beaucoup ou réclamait des soins de toutes les minutes, elle avait partagé sa sollicitude entre la souffrance de l'enfant et celle du père. Il était resté là, l'oreille tendue à tous les bruits, dans une de ces veillées attendries et douloureuses où les femmes recueillent tout ce qu'elles ont en elles de courage pour supporter la lourde charge du devoir multiple. Enfin, l'enfant s'était endormi, et en entendant le père pleurer, Claire était accourue. Oh, quand il la vit devant lui, si tendre, si émue et si belle, quel immense et tardif remords lui vint. Oui, c'était bien elle, la vraie compagne, l'amie. Mais comment avait-il pu l'abandonner? Longtemps, longtemps, il pleura sur son épaule sans pouvoir parler. Et c'était heureux qu'il ne parlât pas, car il lui aurait tout dit, tout. Le malheureux avait besoin d'épanchement, une envie irrésistible de s'accuser, de demander pardon, de diminuer le poids de ce remords qui lui écrasait le cœur. Elle lui épargna la peine de prononcer une parole. « Tu as joué, n'est-ce pas? Tu as perdu? Et beaucoup ?» Il faisait signe que oui. Puis, quand il put parler, il avoua qu'il lui fallait 100 000 francs pour le surlendemain et qu'il ne savait comment se les procurer. Elle ne lui fit pas un reproche. Elle était de celles qui, en face d'un malheur, ne songent qu'à le réparer sans la moindre récrimination. Même dans le fond de son cœur, elle bénissait ce désastre qui le rapprochait d'elle et devenait un lien entre leurs deux existences si séparées depuis longtemps. Elle réfléchit un moment. Ensuite, avec l'effort d'une décision qui a coûté beaucoup de mal à prendre, « Rien n'est encore perdu, dit-elle. J'irai demain à Savigny demander cet argent au grand-père. » Jamais il n'eût osé lui parler de cela. La pensée ne lui en serait même pas venue. Elle était si fière et le vieux gardinois si dur. C'était certes un grand sacrifice qu'elle lui faisait là, une preuve d'amour éclatante qu'elle lui donnait. Subitement, il fut envahi par cette chaleur de cœur, cette allégresse qui vient après le danger passé. Claire lui apparaissait comme un être surnaturel qui avait le don de bonté et d'apaisement, autant que l'autre, là-haut, avait le don d'affolement et de destruction. Volontiers, il se fut mis à genoux devant ce beau visage que ses cheveux noirs magnifiquement tordus pour la nuit entouré d'un nimbe brillant bleuté, et où la régularité des traits, un peu sévères, se fondait dans une admirable expression de tendresse. « Claire, Claire, que tu es bonne !» Sans répondre, elle l'amena vers le berceau de leur enfant. « Embrasse-la, » lui dit-elle doucement. Et comme ils étaient là, tous les deux l'un près de l'autre, perdue dans la mousseline du rideau, la tête penchée sur ce petit souffle apaisé, mais encore un peu haletant des secousses de son mal, Georges eut peur de réveiller sa fille, et il embrassa la mère éperdument. Voilà bien certainement le premier effet de ce genre qu'ait jamais produit dans un ménage l'apparition du petit homme bleu. D'ordinaire, partout où il passe, cet affreux petit gnome, il désunit les mains et les cœurs, détourne l'esprit de ses plus chères affections en l'agitant de mille inquiétudes réveillées au grincement de sa chaînette et à son cri sinistre au-dessus des toits, L'échéance, l'échéance. Chapitre 2. Révélation. Eh, voilà Sigismond. Comment ça va-t-il, père Sigismond? Et les affaires? Ça marche-t-il bien chez vous? Le vieux caissier souriait d'un air bon enfant, distribuait des poignées de main au patron, à sa femme, à son frère, et tout en parlant, regardait curieusement autour de lui. C'était dans une fabrique de papier peint du faubourg Saint-Antoine, chez ses petits prochassons, dont la concurrence commençait à devenir redoutable. Ces anciens commis de la maison Fromont, établis à leur compte, avaient débuté très petitement, étaient arrivés peu à peu à se faire une position sur la place. L'oncle Fromont les avait longtemps soutenus de son crédit, de son argent, ce qui mettait entre les deux maisons des relations amicales et une fin de compte de 10 ou 15 000 francs, qu'on avait négligé de régler définitivement parce qu'on savait qu'avec les prochassons, l'argent se trouvait en bonne main. L'aspect de la fabrique était rassurant, en effet. Les cheminées secouaient fièrement leurs panaches. Au bruit sourd du travail, on sentait les ateliers pleins et actifs. Les bâtiments étaient bien aménagés, les vitrages clairs. Tout avait un aspect d'entrain, de bonne humeur, de discipline. Et derrière le grillage de la caisse, la femme d'un des frères, simplement mise, les cheveux lisses, d'un air d'autorité sur son jeune visage, était assise attentive et recueillie dans un long alignement de chiffres. Et lui-même, en lui-même, le vieux Sigismond songeait amèrement aux différences qui existaient entre la maison Fromont, si opulente jadis, ne vivant plus que sur son ancienne réputation, et la prospérité toujours croissante de l'installation qu'il avait sous les yeux. Son regard fureteur allait au moindre coin, cherchant le défaut, le point à critiquer. Et comme il ne trouvait rien, cela lui serrait le cœur, donnait à son sourire quelque chose de faux et de trouble. Ce qui l'embarrassait surtout, c'était la façon dont il s'y prendrait pour réclamer l'argent de ses patrons sans laisser voir la gêne de la caisse. Le pauvre homme avait un air dégagé, insouciant, qui faisait vraiment de la peine. Oh, les affaires, vous allez bien, oui, très bien. Il passait dans le quartier par hasard, il avait eu l'idée d'entrer un peu. C'est tout naturel, n'est-ce pas? On aime avoir les vieux amis. Mais ses préambules, ses circuits de plus en plus larges, ne l'amenaient pas là où il voulait. Au contraire, il l'éloignait de son idée, et croyant voir de l'étonnement dans les yeux des gens qui l'écoutaient, il acheva de s'égarer, bégaya, perdit la tête, puis en dernière ressource prit son chapeau et fit mine de s'en aller. À la porte, il se ravisa subitement. Ah, au fait, puisque je suis là. Et il avait un petit clignement d'yeux qu'il croyait malin, et qui n'était que navrant. Ben, puisque je suis là, c'est lui qui dit un peu ce vieux comte. Les deux frères, la jeune femme assise au comptoir, se regardèrent une seconde sans comprendre. Des comtes? Quel comte donc? Puis tous les trois se mirent à rire en même temps, et de bon cœur, comme d'une plaisanterie un peu forte du vieux caissier. Sacré père Planus, va! C'est qu'il riait lui aussi, le vieux. Il riait sans en avoir envie, pour faire comme les autres. Enfin, on s'expliqua. Fromont jeune était venu lui-même, 6 mois auparavant, chercher l'argent resté entre leurs mains. Sigismond se sentit fléchir. Il eut pourtant assez de courage pour répondre « Ah tiens, c'est vrai, j'avais oublié. » Ah, décidément, Sigismond Planus se fait vieux. Je baisse, mes enfants, je baisse. Et le brave homme s'en alla en essuyant ses yeux, où perlaient encore de grosses larmes de cette bonne partie de rire qu'il venait de faire. Derrière lui, les jeunes gens se regardèrent en hochant la tête. Ils avaient compris. L'étourdissement du coup reçu avait été si terrible que le caissier, une fois dehors, fut obligé de s'asseoir sur un banc. Voilà donc pourquoi Georges ne prenait plus d'argent à la caisse. Il faisait ses rentrées lui-même. Ce qui s'était passé chez les Prochassons avait dû se passer partout ailleurs. Il était donc bien inutile de s'exposer à des humiliations nouvelles. Oui, mais l'échéance, l'échéance. Cette idée lui redonna des forces. Il essuya son front plein de sueur et se remit en route pour tenter encore une démarche chez un de leurs clients du faubourg. Seulement, cette fois, il prit ses précautions. Et du seuil, sans même entrer, il cria au caissier « Bonjour, père Chose, un petit renseignement, je vous prie. » Il tenait la porte entrouverte, la main crispée sur le bouton. « À quelle époque avons-nous donc réglé notre dernière facture? J'ai oublié de l'inscrire. » « Oh, il y avait longtemps, bien longtemps que leur facture était réglée. Le reçu de Fromont Jeune portait la date de septembre. » Il y avait 5 mois. La porte se referma vivement. Et de deux. Évidemment, ce serait partout la même chose. « Oh, monsieur Charles, monsieur Charles !» murmurait le pauvre Sigismond. Et pendant qu'il continuait son pèlerinage, le dos voûté et les jambes tremblantes, la voiture de madame Fromont-Jeune passa tout près de lui, se dirigeant vers la gare d'Orléans, mais Claire ne vit pas le vieux Planus, pas plus que tout à l'heure, en sortant de chez elle, elle n'avait vu la longue redingote de M. Cheb et le chapeau gibus de l'illustre de Lobel, encore deux martyrs de l'échéance, tournés chacun d'un bout de coin de la rue des Vieilles Haudriettes, avec la fabrique et le porte-monnaie de Rissler pour objectif. La jeune femme était bien trop préoccupée de la démarche qu'elle avait à faire pour regarder dans la rue. Pensez donc, c'était effrayant. Aller demander 100 000 francs à M. Gardinois, un homme qui se vantait de n'avoir emprunté ni prêté un sou dans sa vie, qui racontait à tout propos qu'une seule fois, ayant été obligé de demander 40 francs à son père pour s'acheter une culotte, il lui avait rendu ses 40 francs par petite somme. Pour tout le monde, même pour ses enfants, le vieux Gardinois suivait ces traditions de rapacité que la terre dure et souvent ingrate à ceux qui la cultivent, semble inculquer à tous les paysans. De sa fortune colossale, le bonhomme comprenait que, lui vivant, rien ne passât à sa famille. « Ils trouveront mon bien quand je serai mort, » disait-il souvent. Partant de son principe, il avait marié sa fille, Madame Fromont, la mère, sans la moindre dot, et plus tard, il ne pardonna pas à son gendre d'avoir fait fortune sans aucun secours de sa part. Car c'était encore une des particularités de cette nature aussi vaniteuse qu'intéressée, de vouloir que chacun eût besoin de lui, s'inclina devant son argent. Quand les Fromont se réjouissaient dans sa présence de l'heureuse tournure que leurs affaires commençaient à prendre, son petit œil bleu, matois et fin, souriait ironiquement, et il avait un « tout ça se verra au bout » dont l'intonation faisait frissonner. Parfois aussi, le soir, à Savigny, alors que le parc, les avenues, les ardoises bleues du château, les briques roses des écuries, les étangs, les pièces d'eau resplendissaient, baignées de la gloire dorée d'un beau soleil couchant. Après un regard circulaire, disait tout haut devant ses enfants, « Oh, ce qui me console de mourir un jour, c'est que personne dans la famille ne sera assez riche pour garder un château qui coûte 50 000 francs d'entretien par an. » Pourtant, avec cette tendresse de regain que les grands-pères, même les plus secs, trouvent au fond de leur cœur, du vieux gardinois aurait volontiers choyé sa petite fille. Mais Claire, tout enfant, avait une invincible antipathie pour la dureté de cœur, l'égoïsme glorieux de l'ancien paysan. Puis, quand l'affection ne met pas de lien entre ceux que les différences d'éducation séparent, l'antipathie s'accroît de mille nuances. Au moment du mariage de Claire avec Georges, le bonhomme avait dit à Madame Fromont: si ta fille veut, elle aura de moi un cadeau princier, mais il faut qu'elle le demande. Et Claire n'avait rien eu, n'ayant rien voulu demander. Quel supplice de venir, 3 ans après cela, implorer 100 000 francs de la générosité jadis dédaignée, de venir s'humilier et affronter les sermons sans fin, les ricanements bêtes, le tout assaisonné de plaisanteries berrichonnes, de mots de terroir, de ces dictons justes en général, trouvés par des esprits courts mais logiques, et qui blessent dans leur patois trivial, comme l'injure d'un inférieur. Pauvre Claire! Son mari, son père, allait être humiliée en elle-même. Il faudrait avouer la succès de l'un, la débâcle de cette maison que l'autre avait fondée et dont il était si fier de son vivant. Cette idée qu'elle allait avoir à défendre tout ce qu'elle aimait le plus au monde faisait sa force et en même temps sa faiblesse. Il était 11 heures quand elle arriva à Savigny. Comme elle n'avait prévenu personne de sa visite, la voiture du château ne se trouvait pas à la gare et elle dut faire le chemin à pied. Le froid était vif, la route dure et sèche. La bise sifflait librement dans les plaines arides et sur la rivière où elle s'abattait sans obstacle à travers les arbres, les taillis défeuillés. Sous le ciel bas, le château apparaissait, déroulant sa longue ligne de petits murs et de haies qui le séparaient des champs environnants. Les ardoises de la toiture étaient sombres comme le ciel qu'elle reflétait. Et toute cette magnifique résidence d'été, transformée par l'hiver, âpre, muette, sans une feuille à ses arbres ni un pigeon sur ses toits, semblait n'avoir gardé de vivant que le frissonnement humide de ses pièces d'eau et la plainte des grands peupliers qui s'abaissaient l'un vers l'autre en secouant les nids de pies embroussaillés dans leurs fêtes. De loin, Claire trouvait à la maison de sa jeunesse un air revêche et triste. Il lui semblait que Savigny la regardait venir avec le visage froid, aristocratique, qu'il avait pour les passants du grand chemin arrêtés au fer de lance de ses grilles. Oh, cruel visage des choses! Et pourtant non, pas si cruel, car avec son aspect de maison fermée, Savigny semblait lui dire « Ben attends, n'entre pas !» Et si elle avait voulu l'écouter, Claire, renonçant à son projet de parler au grand-père, serait retournée bien vite à Paris pour garder le repos de sa vie. Mais elle ne comprit pas, la pauvre enfant, et déjà le grand Terre-Neuve qu'il avait reconnu arrivait en bondissant parmi les feuilles mortes et soufflait à la porte d'entrée. « Bonjour, Françoise, où est bon papa ?» demanda la jeune femme à la jardinière qui venait lui ouvrir, humble, fausse, tremblante comme tous les domestiques du château, quand il se sentait sous l'œil du maître. Bon papa était dans son bureau, un petit pavillon indépendant du grand corps de logis, où il passait ses journées à peu brassé dans des cartons, des casiers, des gros livres à dos vert, avec cette folie de bureaucratie qui lui venait de son ignorance première et de l'impression fantastique que lui avait faite autrefois l'étude de notaire de son village. En ce moment, il était enfermé là, en compagnie de son garde, une espèce d'espion de campagne, dénonciateur gagé, qui le tenait au courant de tout ce qui se passait et se disait dans le petit pays. C'était le favori du maître, il s'appelait Fouina, et avait bien la tête aplatie, futée, sanguinaire de son nom. En voyant entrer sa petite fille, pâle et tremblante sous ses fourrures, le vieux comprit qu'il se passait quelque chose de grave et d'insolite, et fit un signe au fouinard qui disparut, se faufila dans l'entrebâillement de la porte comme s'il entrait dans la muraille même. « Et qu'est-ce que t'as, petite ? Te voilà toute perdlutée ?» demanda le grand-père, assis derrière son immense bureau. « Perluté, dans le dictionnaire Berrichon, signifie troublé, affolé, retourné, et s'appliquait parfaitement à Claire. Sa course rapide à l'air froid de la plaine, l'effort qu'elle avait fait d'être là, donnait à son visage, moins posé qu'à l'ordinaire, une expression inaccoutumée. Sans qu'il y eût engagé le moins du monde, elle vint l'embrasser et s'asseoir devant le feu, où des bûches entourées de mousse sèche, des pommes de pin ramassées aux allées du parc, brûlaient avec des éclats de vide et frémissements de sève. Elle ne prit même pas le temps de secouer le grésil qui emperlait sa voilette, et parla tout de suite, fidèle à sa résolution de dire, dès en entrant, le motif de sa visite, avant de s'être laissée impressionner par l'atmosphère de crainte et de respect qui environnait le grand-père, en faisait une sorte de dieu redoutable. Il lui en fallut du courage pour ne pas se troubler, pour ne pas s'interrompre devant ce regard clair qui la fixait, animé dès les premiers mots d'une joie méchante, devant cette bouche féroce dont les coins arrêtés semblaient clos par le mutisme voulu, l'entêtement, la négation de toute sensibilité. Elle alla d'un trait jusqu'au bout, respectueuse, sans humilité, cachant son émotion, assurant sa voix à force de vérité dans son récit. Vraiment, aller voir ainsi, l'un en face de l'autre, lui froid, tranquille, allongé dans son fauteuil, les mains dans les poches de son gilet de molleton gris, elle, attentive aux moindres mots qu'elle prononçait, comme si chacun eût eu le pouvoir de la condamner ou de l'absoudre, jamais on n'aurait dit une enfant devant son grand-père, mais bien une prévenue devant son juge d'instruction. Sa pensée à lui était toute à la joie, à l'orgueil de son triomphe. Le voilà donc enfin vaincu, ses frérots de Fromont. Ah, ah. Oh, on en avait donc encore besoin de ce vieux gardinois. La vanité, sa passion dominante, débordait malgré lui dans toute son attitude. Quand il eut fini, il prit la parole à son tour, commença naturellement par des « Oh, j'en étais sûr, je l'avais dit, oh, je savais bien que tout ça se verrait au bout !» et continua sur le même ton banal et blessant, pour terminer en déclarant que, vu ses principes bien connus dans la famille, il ne prêterait pas un sou. Alors Claire parla de son enfant, du nom de son mari, qui était en même temps le nom de son père, et que la faillite allait déshonorer. Le vieux resta aussi froid, aussi implacable, et profita de son humiliation pour l'humilier encore davantage, car il était de cette race de bons campagnards qui, lorsque l'ennemi est tombé, ne le quittent jamais sans lui laisser les clous de leurs souliers marqués sur la figure. « Tout ce que je peux te dire, petite, c'est que Savigny vous est ouvert. Que ton mari vienne ici, j'ai justement besoin d'un secrétaire. Eh bien, Georges tiendra mes écritures avec 1 200 francs par an et la pâtée à tout le monde. Offre-lui cela de ma part et arrivez. » Elle se leva indignée. Elle était venue comme sa fille et il la recevait comme une mendiante. Dieu merci, il n'en était pas encore là. Oh, « Tu crois ?» fit M. Gardinois avec un petit clignement d'yeux féroce. Frémissante, Claire marcha vers la porte sans répondre. Le vieux la retint d'un geste. « Oh, regarde, tu sais pas ce que tu refuses. C'est dans ton intérêt, tu m'entends bien, que je te proposais de faire venir ton mari ici. Tu sais pas la vie qu'il mène là-bas. Tu le sais pas, bien sûr, sans cela tu viendrais pas me demander mon argent pour qu'il passe, voit passer le sien. Ah, c'est que je suis au courant, moi, des affaires de ton homme. J'ai ma police à Paris et même à Asnières, comme à Savigny. Je sais ce qu'il fait de ses nuits et de ses journées, ce paresseux-là. Je veux pas que mes écus aillent dans les endroits où il va. C'est pas assez propre pour de l'argent, honorablement gagné. » Claire ouvrait des yeux étonnés, agrandis par l'angoisse, sentant bien qu'un drame terrible entrait en ce moment dans sa vie par la porte basse des dénonciations. Le vieux continua en ricanant. Ah, c'est qu'elle a de fière quenotte, cette petite Sidonie.
Sidonie?
Ah bah, ma foi, tant pis, j'ai dit le nom. D'ailleurs, tu l'aurais toujours su un jour ou l'autre. C'est même étonnant que depuis le temps, même vous autres femmes, vous êtes si vaniteuses. Que l'on puisse vous tromper, c'est bien la dernière idée qui vous vient en tête. Eh ben oui, là, c'est Sidonie qui va tout croquer, avec le consentement de son mari, du reste. Et sans pitié, il raconta à la jeune femme d'où venait l'argent de la maison d'Asnières, des chevaux, des voitures, comment était meublé leur joli petit nid de l'avenue Gabriel. Il expliquait, précisait tout par le menu. On sentait qu'ayant eu une nouvelle occasion d'exercer sa manie d'espionnage, il en avait largement profité. Peut-être aussi avait-il vaguement, au fond de tout cela, une rage sourde contre sa petite chèvre, le dépit d'un amour sénile resté toujours inavoué. Claire l'écoutait sans rien dire, avec un beau sourire d'incrédulité. Ce sourire excitait le vieux, éperonnait sa malice. « Ah, tu ne me crois pas. Ah, tu veux des preuves. » Et il en donnait, les accumulait et la criblait de coups de couteau dans le cœur. Elle n'avait qu'à aller voir chez Darche, le bijoutier de la rue de la Paix. 15 jours auparavant, Georges avait acheté là une rivière en diamant de 30 000 francs. C'étaient les étrennes de Sidonie. 30 000 francs de diamant au moment de faire faillite. Il aurait pu parler de la journée entière que Claire ne l'eût pas interrompue. Elle sentait que le moindre effort aurait fait déborder les larmes dont ses yeux étaient remplis, et elle voulait sourire au contraire, sourire jusqu'au bout, la chère et vaillante créature. De temps en temps seulement, elle regardait du côté de la route. Elle avait hâte de sortir, de fuir le son de cette voix méchante qui la poursuivait impitoyablement. Enfin, il s'arrêta. Il avait tout dit. Elle s'inclina et alla vers la porte. « Tu t'en vas, comme tu es pressé ?» dit le grand-père en la suivant dehors. Au fond, il était un peu honteux de sa férocité. « Tu veux pas déjeuner avec moi ?» Elle fit non de la tête, sans la force d'une parole. « Ben, attends au moins qu'on attelle, on te conduira à la gare. »« Non, toujours non. » Et elle continuait à marcher avec le vieux sur ses talons. Droite, fière, elle traversa ainsi la cour, toute pleine de souvenirs d'enfance, sans seulement se retourner une fois. Et pourtant, que d'échos de bons rires, que de rayons du soleil de ses jeunes années était resté dans le moindre petit grain de sable de cette cour. Son arbre, son banc favori, gardaient toujours leur même place. Elle n'eut pas un regard pour eux, ni pour les faisans de la volière, ni même pour le grand chien Kiss, qui la suivait docilement, attendant une caresse qu'on ne lui donna pas. Elle était entrée comme une enfant de la maison, elle sortait en étrangère, avec des préoccupations affreuses que le moindre rappel de son passé heureux et calme n'aurait pu qu'aggraver encore. Adieu, grand-père. Adieu, alors? Et la porte se referma brutalement sur elle. Une fois seule, elle se mit à marcher, vite, vite, presque à courir. Elle ne marchait pas, elle se sauvait. Tout à coup, en arrivant au bout du mur de la propriété, elle se trouva devant cette petite porte verte entourée de glycines et de chèvrefeuilles où était la poste du château. Instinctivement, elle s'arrêta, frappée par un de ces réveils subits de la mémoire qui s'effectuent en nous aux heures décisives et remettent sous nos yeux avec une grande netteté les moindres actes de notre vie ayant rapport aux catastrophes ou aux joies présentes. Était-ce le soleil oblique et rose qui venait de se montrer subitement, rayant l'immense plaine en cet après-midi d'hiver, comme en août à l'heure du couchant? Était-ce le silence qui l'entourait, traversé seulement de ces bruits de nature harmonieux, presque semblables dans toutes les saisons? Toujours est-il qu'elle se revit telle qu'elle était, à cette même place, 3 ans auparavant, un jour où elle avait mis à la poste une lettre invitant Sidonie à venir passer 1 mois près d'elle à la campagne. Quelque chose l'avertissait que tout son malheur datait de cette minute-là. Ah, si j'avais su, si j'avais su! Et elle croyait encore sentir au bout de ses doigts l'enveloppe satinée prête à tomber dans la boîte. Alors, en songeant à l'enfant, naïve, espérante et heureuse qu'elle était à ce moment, une indignation lui vint, à elle si douce, contre l'injustice de la vie. Elle se demandait, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis tout à coup, non, mais ce n'est pas vrai, c'est pas possible, on a menti. Et tout en continuant sa route vers la gare, la malheureuse cherchait à se convaincre, à se faire une certitude, mais elle n'y parvenait pas. La vérité entrevue est comme ces soleils voilés qui fatiguent bien plus les yeux que les rayons les plus ardents. Dans la demi-obscurité qui entourait encore son malheur, la pauvre femme y voyait plus clair qu'elle n'aurait voulu. Maintenant, elle comprenait. Elle s'expliquait des particularités de l'existence de son mari, ses absences, ses inquiétudes, ses airs embarrassés à certains jours. Et parfois, quand il rentrait, cette abondance de détails qu'il lui donnait sur ses courses, mettant des noms en avant comme des preuves qu'elle ne lui demanderait pas. De toutes ces conjectures, l'évidence de la faute se résumait pour elle. Pourtant, elle se refusait encore à y croire et attendrait d'être à Paris pour ne plus douter. Il n'y avait personne à la gare. Une petite gare isolée et triste où pas un voyageur ne se montre en hiver. Comme Claire était là, assise à attendre le train, en regardant vaguement le jardin mélancolique du chef de gare et ses débris de plantes grimpantes courant tout le long des barrières de la voie, elle sentit sur son gant un souffle chaud et humide. C'était son ami Kiss qui l'avait suivi et qui lui rappelait leur bonne partie d'autrefois avec des frétillements, des sauts contenus, une joie pleine d'humilité terminée par un allongement de toute sa belle fourrure blanche aux pieds de sa maîtresse sur le carreau froid de la salle d'attente. Ses humbles caresses qui venaient la chercher comme une sympathie timide et dévouée firent éclater les sanglots qu'elle retenait depuis si longtemps. Mais tout à coup, elle eut honte de sa faiblesse. Elle se leva, renvoya le chien, le renvoya sans pitié, du geste, de la voix, en lui montrant de loin la maison d'un visage sévère que le pauvre Kiss ne lui connaissait pas. Ensuite, elle essuya bien vite ses yeux et sa main humide, car le train de Paris arrivait et elle savait que dans un moment, elle aurait besoin de tout son courage. Le premier soin de Claire, en descendant du wagon, fut de se faire conduire chez ce bijoutier de la rue de la Paix qui avait, au dire du grand-père, fourni à Georges une parure de diamants. Si cela était vrai, tout le reste le serait aussi. Sa peur d'apprendre la vérité était si grande qu'une fois là, en face de cette devanture luxueuse, elle s'arrêta, n'osant pas entrer. Pour se donner une contenance, elle paraissait très attentive à regarder les bijoux dispersés sur le velours des écrins et à la voir élégante dans sa mise discrète, penchée vers ce scintillement menu et attractif. On aurait pu la prendre pour une heureuse femme en train de choisir une parure, bien plus que pour une âme douloureuse et troublée, venant chercher là le secret de sa vie. Il était 3 heures de l'après-midi. En hiver, à ce moment de la journée, la rue de la Paix a une physionomie vraiment éblouissante. Entre la matinée courte et le soir vite venu, l'existence se dépêche dans ces quartiers luxueux. C'est un va-et-vient de voitures rapides, un roulement ininterrompu, et sur les trottoirs une hâte coquette, un froissement de soie, de fourrure. L'hiver est la vraie saison de Paris. Pour le voir beau, heureux, opulent, ce Paris du diable, il faut le regarder vivre sous un ciel bas, alourdi de neige. La nature est pour ainsi dire absente du tableau, ni vent, ni soleil. Juste assez de lumière pour que les couleurs les plus effacées, les moindres reflets prennent une valeur admirable, depuis les tons gris-roux des monuments jusqu'aux perles de jais qui constellent une toilette de femme. Les affiches de théâtre, de concerts, resplendissent comme éclairées des splendeurs de la rampe. Les magasins ne désemplissent pas. Il semble que tous ces gens circulent pour des apprêts de fêtes perpétuelles. Alors, s'il y a une douleur qui se mêle à ce bruit, à ce mouvement, elle en paraît bien plus affreuse. Pendant 5 minutes, Claire souffrit un martyre pire que la mort. Là-bas, sur la route de Savigny, dans l'immensité des plaines désertes, son désespoir s'éparpillait à l'air vif et semblait tenir moins de place. Mais ici, il l'étouffait. Les voix qui sonnaient auprès d'elle, les pas, le frôlement inconscient des promeneurs, tout augmentait son supplice. Enfin, elle entra. « Ah oui, madame, parfaitement, monsieur Fromont, une rivière de diamants et de roses, oh, nous pourrions vous faire l'appareil pour 25 000 francs. » Oh, c'était 5 000 francs de moins qu'à lui. « Merci, monsieur, » dit Claire, « je réfléchirai. » Une glace en face d'elle, où elle vit ses yeux cerclés et sa pâleur de morte, lui fit peur. Elle sortit vite en se raidissant pour ne pas tomber. Elle n'avait qu'une idée, échapper à la rue au bruit, se retrouver seule, bien seule, pour pouvoir se plonger, s'abîmer dans ce gouffre de pensées navrantes, de choses noires, qui tourbillonnaient au fond de son âme. Oh, le lâche, l'infâme! Et elle, qui cette nuit encore le consolait, l'entourait de ses bras. Subitement, sans savoir comment cela se faisait, elle se vit dans la cour de la fabrique. Quel chemin avait-elle pris? Était-elle venue à pied ou en voiture? Elle ne se rappelait plus rien. Elle avait inconsciemment, comme dans un rêve, elle avait agi. Le sentiment de la réalité lui revint, féroce et poignant, en arrivant au perron de son petit hôtel. Richler était là, en train de faire monter chez sa femme des caisses de fleurs pour la fête splendide qu'elle donnait le soir même. Avec son calme habituel, il dirigeait les ouvriers, soutenait les hautes branches qu'ils auraient pu casser, Non, pas comme cela, pas assez longue de chant. Prenez garde au tapis. Cette atmosphère de plaisir et de fête qui l'avait tant écœuré tout à l'heure la poursuivait jusque dans sa maison. C'était trop d'ironie à la fin. Elle se révolta. Et pendant que Rissler la saluait, affectueux et plein de respect comme toujours, elle eut sur son visage une immense expression de dégoût et passa droit sans lui parler, voir la surprise qui écarquillait ses bons gros yeux. Dès ce moment, son parti était pris. La colère, une colère d'honnêteté et de justice, allait la faire agir. Elle prit à peine le temps d'entrer, d'embrasser les joues fraîches de l'enfant et courut à la chambre de sa mère. « Vite, maman, habillez-vous. Nous partons, nous partons. » La vieille dame se leva lentement du fauteuil où elle était assise, très occupée à nettoyer sa chaîne de montre en entrant une épingle entre chaque chaînon avec des précautions infinies. Claire retint un mouvement d'impatience. « Allons, allons, vite, préparez vos affaires. » Sa voix tremblait, et la chambre de la pauvre maniaque lui parut atroce, toute reluisante de cette propreté qui peu à peu était devenue une folie. C'est qu'elle se trouvait dans un de ces moments sinistres où une illusion perdue vous les fait perdre toutes, vous laisse voir jusqu'au fond la misère humaine. Entre la mère à moitié folle, le mari infidèle, l'enfant trop jeune, la conscience de son isolement lui venait pour la première fois. Mais cela ne faisait que l'affermir dans ses résolutions. En une minute, toute la maison fut occupée aux préparatifs de ce départ, si prompt, si imprévu. Claire pressait les gens, bouleversée, habillait sa mère et l'enfant rieuse dans tout ce train. Elle voulait partir avant le retour de Georges, pour qu'en arrivant, elle trouvât le berceau vide et la maison déserte. Où irait-elle? L'on ne savait rien encore. Peut-être chez une tante à Orléans, peut-être à Savigny, n'importe où. Ce qu'il fallait avant tout, c'était partir, fuir ce milieu de trahison et de mensonge. En ce moment, elle était dans sa chambre à faire une malle, à entasser des effets. Navrante occupation. Chaque objet qu'elle déplaçait remet en elle des mondes de pensées, de souvenirs. Il y a tant de nous-mêmes dans tout ce qui nous sert. Quelquefois, le parfum d'un sachet, le dessin d'une dentelle suffisait pour lui faire venir des larmes. Tout à coup, un pas lourd retentit dans le salon dont la porte était entr'ouverte. Puis on toussa légèrement, comme pour avertir qu'il y avait quelqu'un là. Elle crut que c'était Rissler, car lui seul avait le droit d'entrer chez elle avec cette familiarité. L'idée de se retrouver devant ce visage hypocrite, ce sourire menteur l'écœurait tellement qu'elle se précipita pour fermer la porte. « Je n'y suis pour personne !» La porte résista et la tête carrée de Sigismond parut dans l'entrebâillement. « C'est moi, madame, » dit-il tout bas. « Je viens chercher l'argent. »« Quel argent ?» demanda Claire, qui ne se rappelait plus pourquoi elle était allée à Savigny. « Chut ! Mais les fonds pour mon échéance de demain. Monsieur Georges, en sortant, m'avait dit que vous me les remettriez tantôt. » « Ah oui, oui, c'est vrai, les 100 000 francs. Ah ben, je ne les ai pas, monsieur Planus, je n'ai rien. » « Alors, » fit le caissier avec un son de voix étrange, comme s'il se parlait à lui-même, « alors, c'est la faillite ?» Et il s'en retourna lentement. La faillite. Elle s'assit épouvantée, anéantie. Depuis quelques heures, la ruine de son bonheur lui avait fait oublier celle de la maison. Mais elle se souvenait maintenant. Ainsi son mari était ruiné. Tout à l'heure, en rentrant, il allait apprendre son désastre, et il apprendrait en même temps que sa femme et son enfant venaient de partir, qu'il restait seul au milieu de ce sinistre. Tout seul, lui, cet être si mou, si faible, qui ne savait que pleurer, se plaindre, montrer le poing à la vie comme un enfant. Mais qu'allait-il devenir, le malheureux? Elle en avait pitié, malgré son crime. Puis cette idée lui vint qu'elle aurait peut-être l'air d'avoir, lui, devant la faillite, la misère. Georges pourrait se dire, « Si j'avais été riche, elle m'aurait pardonné. » Devait-elle lui laisser ce doute? À une âme généreuse et fière comme celle de Claire, il n'en fallait pas plus pour changer sa résolution. À la minute, il se vit en elle un apaisement de tous ses dégoûts, de toutes ses révoltes, et comme une lumière subite qui l'éclairait mieux sur son devoir. Quand on vint lui dire que l'enfant était habillé, les malles prêtes, sa nouvelle décision était prise. « Non, c'est inutile, » répondit-elle doucement. « Nous ne partons pas. »